Chapitre 5. Lorsqu'Amine fut partie, Dalberg tâcha de se persuader qu'elle avait versé cette fausse nouvelle sur sa douleur comme du vinaigre sur une blessure et que le mariage de Rudolf et de Calliste était une pure invention. Cette idée lui rendit un peu de calme. Mais que devint-il lorsqu'il aperçut sur le journal qu'un des détenus lui avait prêté la publication de banc qu'avait annoncé Amine? Il n'y avait plus moyen de douter. On peut se faire aisément une idée du désespoir mêlé de fureur qui s'empara de Dalberg. Est-il au monde une position plus propre à exciter la rage que d'être retenu prisonnier quand celle qu'on aime va épouser un rival? C'est à se briser la tête contre les murs, à se pendre aux barreaux de sa fenêtre, ou si l'on a le génie des évasions comme Latude et le baron de Trinque, à creuser avec une épingle des couloirs souterrains des 80 pieds de long. Il admettait à la rigueur que Calixte, blessé au vif par l'aventure du médaillon, compliqué de la fatale rencontre à l'opéra, ne voulut pas lui pardonner et le punit par un exil même éternel. Mais il ne concevait pas qu'elle poussât à ce point l'oubli des souvenirs et des serments. Il eut peut-être consenti à ne jamais la revoir, pourvu qu'elle n'appartint pas à un autre. Cependant, il eut joui de sa liberté que le mariage se fût également achevé. Il n'y pouvait apporter aucun empêchement. Son duel précédent le privait de la ressource de provoquer Rodolphe, et tout assez de ce genre n'eût abouti qu'à un esclandre inutile. Le consentement de Calixte à ce mariage rendait toute tentative pour le rompre superflue. Il ne s'agissait pas ici d'une jeune fille traînée de force à l'hôtel par les ordres d'un père barbare, puisque Mademoiselle Després, comme l'avait dit Amine, adorait Rudolf. Dalberg ne se rendait pas compte aussi nettement que nous le faisons de ses impossibilités. Il lui semblait que si on lui eût levé son écrou, il aurait trouvé à l'instant décisif quelque moyen suprême qui lui serait venu du ciel, quelque illumination subite, et que le sacrifice ne serait pas accompli. Un de ces raisonnements de condamnés à mort qui espèrent, en allant de la prison à l'échafaud, qu'une révolution, un tremblement de terre, un cataclysme quelconque viendront les délivrer. Maintenant, on s'étonnera peut-être que Calixte, après la déclaration qu'elle avait faite à M. Després de n'être jamais qu'à Dalberg, n'eût pas résisté plus obstinément aux volontés paternelles. Cette foi si vive dans l'amour d'Henri s'était donc éteinte. Cet entêtement sublime à croire innocent, celui que tout accusait, était donc enfin vaincu. La beauté d'Amine lui avait-elle donné la certitude d'une trahison? Savait-elle la liaison d'Henri avec Florence? Et jugeait-elle que, rebuté par les obstacles, Dalberg avait enfin pris son parti? C'est ce que nous ne saurions décider. M. Després, de plus en plus entiché de Rudolf, avait tant persécuté Calixte qu'elle avait fini par lui répondre qu'elle consentait à ce mariage, mais qu'elle était sûre que lui, M. Després, la supplierait bientôt de ne pas l'accomplir. « Alors, je puis dès aujourd'hui t'appeler Madame la Baronne Rudolf, » s'écria l'ex-notaire en se frottant les mains. « Quand il n'est pas probable que je change d'avis. Ton Henri est maintenant amoureux d'une autre créature. Quel gaillard, et quand je pense qu'il a failli être mon gendre !» Calixte ne répondit rien et retomba dans sa mélancolie sereine. Rudolf ne savait que penser de ce calme, et il s'étonnait, tout en attribuant cet effet à ses mérites, de ce que l'amour que la jeune fille avait pour Dalberg se fût si facilement déraciné. Parfois, il lui semblait que l'œil de Calixte prenait, en le regardant, une expression étrange, et qu'il y avait une ironie contenue dans son sourire. De loin en loin, la lueur d'une arrière-pensée colorait d'un éclair rapide le masque pâle de résignation posé sur la figure de la jeune fille. Et Rudolf se sentait, malgré lui, pris de vagues terreurs, comme à l'approche d'une catastrophe. Cependant, comme les premiers bans étaient publiés, Rudolf avait fini par se rassurer. La journée sembla bien longue à Dalberg. Les heures lui paraissaient des éternités et les secondes des siècles. La lettre qu'il avait écrite à Florence n'avait pas encore reçu de réponse. Il s'était attendu à voir la jeune femme accourir aussitôt pour le délivrer, et il ne concevait rien à ce retard inexplicable. Les plus horribles soupçons lui traversèrent l'esprit. « Florence, dit-il, ne serait-elle qu'une amie ne plus rouée? Ma ruine l'aurait-elle éloignée de moi? Était-ce une rapacité sordide que cachait ces simagrées de vertu? Oh non, je ne puis le croire. Peut-être fait-elle les démarches nécessaires pour me tirer d'ici, et je vais la voir bientôt paraître. Bah, je crois entendre craquer un brodequin de femme dans le corridor. C'est elle. » Un pas vif et léger, accompagné d'un frôlement de robe de soie, annonçait en effet la présence d'une visiteuse, mais ce n'était pas Florence. Elle ne vint ni ce jour-là, ni le suivant. Dalberg, exaspéré, se livra contre les femmes à des imprécations dignes de Juvénal. Il les maudit toutes, Calix, Tamine, Florence, sans distinction, la meilleure comme la pire. Il jura de ne plus croire ni à l'amour, ni à l'amitié, ni à rien, et récita sans le savoir toutes les tirades du Timon d'Athènes de Shakespeare. Le monde lui semblait une caverne de brigands et de filles perdues. Il se voyait joué, dupé, volé, ruiné. Avec la dernière pièce d'or, commençait l'abandon, et l'on venait même pas au courvoi de sa richesse. Il se promit bien pour l'avenir, si jamais il se reconstruisait une fortune, d'être plus griffu, plus fauve et plus défiant que ces avares de Quentin Metsys qui allongent leurs phalanges décharnées sur des piles de quadruples. Il en était là de sa diatribe lorsque Florence entra. Elle vit à la physionomie décomposée de Dalberg ce qui se passait dans son âme et resta debout près de la porte comme attendant l'invitation d'avancer. Dalberg gardait un farouche silence. « Eh bien, dit Florence avec un sourire doux et triste, pourquoi vous retenez-vous? Donnez-moi tout haut les épithètes que vous m'appliquez sans doute tout bas. Appelez-moi perfide, ingrate, femme sans cœur. Vous avez donc pu croire, ajouta-t-elle avec une pause, un instant que je vous abandonnais? Oh! Comment ai-je pu être à ce point méconnu? J'avais l'ambition de vous avoir inspiré une plus haute idée de moi. Tout à l'heure, car le moment est venu, vous apprécierez mieux, Florence. Et d'abord, dit-elle en posant sur la table un petit cahier de billets de banque, voilà de quoi vous délivrer. Henri fit un geste de négation et une noble rougeur couvrit son front. Oh, « Vous pouvez accepter cet argent, reprit Florence. C'est le vôtre. Vous n'êtes pas ruiné. » La plus vive surprise se peignit dans les yeux d'Henri. Oh, « Vous êtes même plus riche que vous ne l'étiez. Les sommes que vous avez cru follement dissipées ont été placées dans d'heureuses entreprises par un vieil ami de M. Turckheim qui m'a conservé l'affection et en qui j'ai toute confiance. » Vos capitaux crucifiés par ses soins et nous rapportent des rentes dont vous trouverez les titres à l'hôtel qui est à vous maintenant et dont voici la clé, car je n'y rentrerai pas. Ma mission est accomplie et vous ne devez plus me revoir. Que voulez-vous dire, chère Florence? S'écria Dalberg qui ne comprenait rien à ce revirement soudain de situation et à cette résolution étrange. « Calix vous aime encore. Adieu, Henri. Adieu pour toujours. » Et Florence posa ses lèvres sur le front du jeune homme. Puis elles disparurent, tirant la porte sur elle si brusquement que Dalberg ne put la rejoindre. Quand il arriva à la porte extérieure, il entendit le roulement de la voiture de Florence qui s'éloignait. Pour sortir, il fallait qu'il remontât à chercher ses billets de banque. Tout espoir de la rattraper était donc perdu. Le premier usage qu'il fit de sa liberté, ce fut de courir à l'hôtel redevenu le sien, espérant y trouver quelque indice. Non, les gens de Florence ne savaient rien. Leur maîtresse était sortie le matin et n'avait pas reparu. Il alla rue Saint-Lazare, à l'ancien appartement qu'elle occupait. Tout était fermé. Les précautions de Florence étaient bien prises et les recherches de Dalberg furent inutiles. À présent, il faut que nous expliquions nous-mêmes au lecteur cette énigme dont Henri n'eut le mot que longtemps après. Florence avait été élevée dans la même pension que Calixte. Et les deux enfants avaient contracté l'une pour l'autre une de ces amitiés si vives et si pures qui ne sont possibles qu'à cet âge heureux. Le temps seul des classes les séparait, car Florence, âgée de 2 ans de plus que son amie, était naturellement plus avancée dans ses études. Mais aux récréations, on était sûr de les trouver, se promenant côte à côte, sous l'allée de tilleul au fond du jardin, et penchant leur âme et faisant sur toute chose des conversations infinies. Calixte, pour rester continuellement avec son ami, était parvenu à sauter 2 classes à force de travail et d'application. Florence était fille d'un officier de marine mort de la fièvre jaune à Saint-Domingue et d'une créole accoutumée à la vie splendide des colonies et au faste des grandes habitations, qui dissipa vite le peu de fortune laissée par l'officier, de façon qu'au sortir de la pension où elle avait cru reçue l'éducation la plus brillante, Florence, revenue à Paris, trouva chez elle la misère du luxe, la plus triste de toutes les pauvretés. Bientôt après, elle perdit sa mère et resta sans ressources. Aucune des humbles industries qui peuvent faire vivre une femme ne fut dédaignée de Florence, mais elle était trop souverainement belle pour que l'on pût croire de sa part à un travail sérieux. De si blanches mains ne devaient pas toucher l'aiguille. Elles étaient modelées pour s'étaler sous le scintillement des joyaux au rebord de velours rouge d'une loge d'avant-scène. Son outrageuse beauté la fit renvoyer de partout. Aucune maîtresse ne voulait d'elle, de peur d'être sa servante. Elle tenta d'aborder le théâtre car elle possédait une voix magnifique, mais à l'opéra, comme aux scènes de vaudeville, on la repoussa pour crime de perfection, sans circonstances atténuantes. La nombreuse armée des laiderons était contre elle. Enfin, M. de Turckheim, attaché à la légation de Prusse, la rencontra et sut l'apprécier. Comme c'était un homme d'infiniment d'esprit, il ne se laissa pas effrayer et contracta avec elle une liaison qui dura jusqu'à la mort du diplomate, arrivé depuis 1 an à l'époque où se passe notre action. Aucune mauvaise langue n'aurait pu s'y nommer le successeur de M. de Turckheim. Telle était la façon dont avait tourné l'ami de Mlle Calixte. Celle-ci avait toujours conservé pour son ami déchu la même affection qu'auparavant. Bien que M. Després lui eût enjoint de ne plus conserver aucun rapport avec elle, de ne pas la saluer si par hasard il la rencontrait, et de ne jamais prononcer son nom, car Florence était une de ces femmes qu'une jeune personne ne doit pas connaître, il est douteux que Calixte eût suivi dans toute leur rigueur les ordres de son père. Peut-être, dans sa naïveté virginale, Calix ne comprenait pas bien toute l'étendue de la faute de Florence, ou bien avait-elle l'indulgence de la vertu heureuse pour une belle âme tombée, mais non souillée. Le bouquet de bleuets et de pavots peint par Florence occupait toujours sa place au-dessus du piano, et si quelques lettres manquaient au nom de la proscrite à demi caché par la bordure, on eût pu le lire tout entier dans le cœur de son ami Calixte. Sous une apparence de légèreté enfantine, elle avait un caractère ferme et ne cédait pas aisément à des idées qu'elle trouvait injustes. Ainsi, Florence, condamnée par tout le monde, était absoute par elle. Elle connaissait trop tous les trésors de cette âme généreuse. Elle avait trop échangé de confidences avec ce pur et noble esprit pour croire jamais à sa dégradation. Elle plaignit un malheur inévitable et se dit que nul autre dans une situation pareille n'eût lutté plus longtemps. Les deux amis s'étaient sans doute rencontrés par hasard depuis la venue de Calixte à Paris, et ne pouvant se voir, étaient convenus entre elles du moyen de correspondance que nous avons raconté au commencement de ce récit. Car Mademoiselle Després ne recevait pas de lettres. Florence mettait ses billets dans le dossier de la chaise de Calixte à Saint-Germain-des-Prés, et Calixte lui répondait par l'entremise du joueur d'orgue qui remettait à Florence le papier écrit en encre sympathique. Depuis quelque temps, cette correspondance avait été plus active qu'à l'ordinaire. Calixte, averti par Florence, savait qu'Henri s'était laissé entraîner dans une société dangereuse pour lui. Elle ne doutait pas de son amant, car le caractère de Calixte était d'avoir une confiance inaltérable dans l'âme qu'elle avait une fois jugée digne de la sienne. Mais elle craignait qu'on abusât de sa noble nature et qu'un orgueil malentendu ne fît gauchir ses belles qualités naturelles. Elle pria donc son amie, à qui sa position permettait de suivre d'Alberg dans le monde d'actrice, de roué et de viveur où Rudolphe le poussait, de le surveiller, non dans un but de jalousie mesquine, mais par une sorte de sollicitude maternelle. Florence accepta la charge de servir de mentor à ce Télémaque, avec recommandation secrète de le précipiter la tête dans l'onde amère s'il s'acoquinait trop longtemps dans quelque île de Calypso. Chaque semaine, la boîte de Saint-Germain-des-Prés contenait un bulletin sommaire, mais exact, de la conduite de Dalberg, qui était à mille lieues de soupçonner que, du fond de la rue de l'Abbaye, une jeune fille ne sortant jamais, excepté pour aller à l'église, sut tous les détails de son existence de Lyon. Si l'on trouve cette curiosité blâmable de la part d'une jeune personne, nous répondrons qu'Henri devait être l'époux de Calixte et que la légitimité du but sanctifiait les moyens. C'était du bonheur de leur vie qu'il s'agissait. N'est-ce pas aussi une position bien atroce que celle des jeunes filles prisonnières dans une maison ouverte et qui ne peuvent rien savoir de ce que fait en dehors celui dont leur existence entière dépend? Nous allons citer trois ou quatre de ces billets qu'on a pu remarquer dans le tiroir de Florence, tout maculé de poudre noire destinée à en faire ressortir les caractères. Calixte à Florence. On lui a pris mon portrait, dis-tu. Une mauvaise femme bien effrontée. Il dormait, ou car il n'est pas accoutumé à veiller si tard, ce pauvre Henri. Tu crains que j'aie été reconnu? Oh, par qui, c'est pas possible. Je ne connais personne à Paris, et surtout parmi ces gens-là. Comme il doit être contrarié, il étonnait tant ce portrait. C'était cependant pour toi que je l'avais peint. On le lui rendra sans doute bientôt, car on n'en peut rien faire. Il va donc beaucoup toujours, ce monsieur Rudolphe, que je déteste et que je me représente comme le Méphistophélès des illustrations de Faust. Tâche de l'en empêcher si tu peux. Mais quel plaisir les hommes peuvent-ils donc trouver à fumer, à boire et à jouer toute la nuit? Je suis sûre de Dalberg, mais je serai bien contente le jour où nous retournerons assez de la même à la même. Oui, ce que tu avais prévu est arrivé. La mauvaise femme, voyant qu'Henri la dédaignait, a renvoyé le portrait avec une lettre infâme. Oh, si tu avais vu la colère de Monsieur Després! Oh, il t'aurait fait peur! Dalberg, lui qui est si brave, tremblait comme la feuille. Mon père lui a dit de ne jamais se représenter chez lui. Quel malheur au moment où nous allions nous marier, car tout était convenu. Il faudra bien longtemps pour faire revenir mon père à des sentiments plus doux. Dans ma douleur, j'éprouvais un plaisir. C'est de penser qu'Henri m'aime toujours, autrement cette demoiselle n'aurait pas joué ce tour indigne. Maintenant qu'il ne pourra plus venir à la maison, il va bien s'ennuyer. Rudolf le fera jouer et l'emmènera à ces vilains soupers d'où l'on ne sort que quand les honnêtes gens déjeunent. Tu dis que cette Amine est jolie. Est-ce possible avec une âme si laide? Veille bien sur Henri. Fais en sorte de te trouver souvent avec lui. Ce sera un peu comme s'il était avec moi, car nous avons été trop unis pour qu'il ne reste pas beaucoup de l'une à l'autre. J'ai dit nettement à mon père que je n'aurais jamais d'autre mari que Dalberg. Il m'a répondu que je parlais comme une petite sotte qui ne savait rien des choses du monde, car il ne me croit pas, à beaucoup près, si bien renseigné. Autre. J'ai été hier à l'opéra avec mon père et M. Rudolf, qui vient très souvent chez nous maintenant car il me fait la cour et veut m'épouser. C'est lui qui aura dit mon nom à cette méchante Amine et a machiné avec elle toute cette odieuse intrigue. Je me suis souvenu en le voyant qu'il avait eu autrefois quelques rapports avec mon père. Dalberg était en face de nous dans une baignoire avec cette fille. Ah, j'aurais voulu la trouver laide. Non, mais tu as raison, elle est jolie, très jolie, et doit être dangereuse. Il faut empêcher Dalberg de la voir. Si tu savais quels yeux Henri a fait à Rudolf sur l'escalier. Ils vont se battre, bien sûr. Oh, pourvu qu'Henri ne soit pas blessé ou tué. Trouve quelque moyen d'arranger cela, ma bonne Florence. Préviens la police et frère Rudolf. Mais surtout, détourne Henri d'Amine. Dusses-tu pour cela faire un peu la coquette? Je te donne carte blanche et je me fie à toi complètement. Comme vous l'avez pu voir, Florence s'était conformée aux intentions de son ami avec un dévouement, une abnégation rare. C'était elle qui avait essayé de faire griser par ses domestiques le laquais d'Amine pour lui reprendre le médaillon, qui avait envoyé à Rudolf la lettre mystérieuse à laquelle Dalberg devait la vie. Pour servir son ami, elle s'était faite la rivale d'Amine, et Dalberg, retiré par elle des désordres vulgaires où son désespoir lui poussait, arrivait au dénouement pur de toute faute. Quand le premier étonnement causé à Dalberg par la disparition de Florence fut passé, l'idée du mariage de Calixte avec Rudolf se représenta à son esprit avec plus de force que jamais. Et la poignante douleur qu'elle lui causait, il sentit qu'il serait incapable de survivre à une telle catastrophe. Il courut comme un fou chez M. Després pour le supplier de lui pardonner et de revenir sur cette résolution fatale, décidé à se traîner à genoux, à descendre aux plus lâches prières. M. Després était sorti ou ne voulut pas le recevoir. Henri erra plus d'une heure devant la porte, espérant que l'ex-notaire entrerait ou sortirait. Il passa plus de 200 fois sous la fenêtre de Calixte, tâchant de la deviner sous la transparence du rideau. Rien ne bougeait. Il y avait pourtant plus de temps à perdre pour obtenir cette explication suprême, car le contrat devait se signer le lendemain. Harassé de fatigue morale et physique, il prit une voiture, s'en retourna à la maison des Champs-Élysées et se jeta sur un divan, dans un état de prostration complète. Il était plus malheureux que jamais. Calixte allait être irrévocablement perdu pour lui et il n'avait plus Florence. Des deux anges de sa vie, il ne lui en restait pas un. Le démon triomphait. Il resta ainsi bien longtemps, la tête entre ses deux mains, étourdi par les mille projets extravagants qui bourdonnaient confusément dans son cerveau. La nuit était venue, et quand on apporta les bougies, il aperçut un paquet assez volumineux déposé sur la table, et que dans sa préoccupation il n'avait pas d'abord remarqué. Il déchira l'enveloppe et trouva d'abord un billet qu'il reconnut aussitôt pour être de l'écriture de Florence, puis une lettre chargée. Le billet contenait ces lignes. « Mon cher Henri, vous n'aurez qu'à vous présenter demain chez M. Després, à l'heure de la signature du contrat, habillé de noir, ganté de blanc, en tenue de mariée. Calixte sait que vous devez venir. Elle vous attend, elle vous aime et vous pardonne. Des fautes que vous n'avez pas commises d'ailleurs. Rudolf ne viendra pas, j'en ai la certitude. Vous donnerez à M. Després le pli 6 juin, et vous le verrez immédiatement changer d'avis sur ce précieux baron dont il était tellement engoué. Faites ce que je dis, vous pouvez vous fier à moi. Dans le cabinet de Lac-Rouge, vous trouverez les diamants, les parures et les bijoux dont vous m'avez fait présent. La corbeille de mariage est toute prête. » Henri croyait rêver, et il regardait d'un air machinal cette enveloppe au milieu de laquelle s'épatait dans un énorme disque de cire le blason compliqué d'une chancellerie étrangère. Son sort était enfermé dans ce carré de papier gris. Monsieur Després était radieux. Il avait mis dès l'aurore une énorme cravate blanche très empesée sur laquelle la chair de sa figure, un peu amollie par l'âge, débordait en plis rougeâtres. Son habit, d'un très beau drap et d'un noir magnifique, avait une ampleur cossue qui sentait son homme éligible. Une grosse chaîne allait de l'ouverture de son gilet à sa poche et dans ses doigts badinait une tabatière d'or. Monsieur Després, ainsi fait, était l'idéal du beau-père et le gendre le plus difficile du pu en rêver un plus convenable. Il allait et venait, repoussant du pied les fauteuils qui n'étaient pas bien symétriquement à leur place, regardant par la croisée à chaque minute, quoiqu'il ne fût pas encore l'heure marquée pour la signature du contrat, et tambourinant sur les vitres des marches triomphales. Le contentement lui rayonnait de tous les pores, car il faut bien ici dévoiler cette faiblesse de l'honnête M. Després. Il était singulièrement flatté de voir sa fille épouser un baron. L'idée que les panneaux de la voiture de Calixte pourraient désormais porter le cercle entouré de tortilles de perles, oh, lui causait une satisfaction intime. Cependant, M. Després faisait profession de sentiments libéraux et se prétendait libre de préjugés gothiques. À la chambre, il eut siégé sur les bancs extrêmes du centre-gauche. Explique qui voudra cette contradiction. Le blason a du charme, même pour les républicains. Et dans presque tous les hommes à tendance démocratique, l'héroïne est une duchesse aimée par un homme du peuple. Calix n'était pas à beaucoup près aussi rayonnante que son père. Et la perspective d'être appelée bientôt Madame la Baronne ne semblait pas exciter une joie bien vive dans son âme. Elle avait peu dormi, et sa figure, anoblie par une pâleur délicate, trahissait sous son voile d'indifférence une certaine anxiété, et comme l'attente d'un événement. Certes, elle avait toute confiance dans le dévouement et l'adresse de son amie. Sur sa promesse de la délivrer de Rudolf, lorsqu'il en serait temps, elle s'était extérieurement résignée aux volontés de son père. Mais ne pouvait-il pas se faire que Florence se fût abusée sur l'infaillibilité de son moyen ou que Rudolf parvint à parer le coup qu'on lui montait? Il avait tant de ressources dans l'esprit, tant de ruses et de roueries à sa disposition, Il était si expert à sortir des situations difficiles, si fin, si délié. Monsieur Desprez avait en lui une confiance si aveugle. On conviendra qu'il y avait là bien des sujets de crainte et que les tressaillements nerveux de Calixte étaient parfaitement justifiés. Si ce moyen suprême manquait, elle se trouvait engagée par sa parole même et forcée d'épouser un homme pour qui elle n'avait que du mépris. De cet instant dépendait le malheur ou le bonheur de sa vie. Le rendez-vous était pris pour midi. Les deux aiguilles s'étaient rejointes et formaient une seule ligne perpendiculaire. Les témoins étaient là, il ne manquait plus que Rudolphe. Mademoiselle Després se tenait à droite au bord de son fauteuil, pâle, immobile, les yeux fixés sur le cadran, l'oreille tendue et buvant chaque son, chaque roulement de voiture, chaque bruit de pas qui se produisait dans la rue. L'aiguille marquait midi un quart. Calixte respira et une légère teinte rosée reparut sur ses joues. « Est-ce que la pendule avance ?» dit M. Després en consultant sa montre. « Non, mais Rudolphe devrait être arrivé. Ben, il y a toujours le quart d'heure de grâce. » Interrompu un instant par l'observation de M. Després, le léger chuchotement de conversation à demi-voix qui bourdonnait dans le salon reprit son cours. M. Després se mit à se promener de long en large, non sans quelque impatience, car il trouvait que Rudolphe ne montrait pas un empressement suffisant. « Bah, dit-il, il se sera oublié à sa toilette. Un jour de contrat, l'on ne saurait être trop beau. » Pendant cette promenade, le balancier, mêlant son tic-tac au craquement des souliers neufs de M. Després, avait accompli d'assez d'oscillations pour amener la sonnerie à frapper l'heure. Le baron Rudolphe, si exact, si poli, si minutieux observateur des convenances, était en retard de 60 minutes à toutes les horloges et à toutes les montres possibles. Les témoins, visiblement décontenancés, ne savaient que faire de leur personne. La face, naguère si resplendissante de M. Després, s'était considérablement embruni. Les nuages s'amassaient sur son front. Celui de Calixte, au contraire, se rassérénait de plus en plus et se détachait lumineusement sur le fond sombre de la contrariété générale. « Mais c'est inconcevable !» murmurait entre ses dents l'ex-notaire. « Lui qui paraissait si amoureux de Calixte, si ravi de son consentement, être en retard de plus d'une heure. Oh, ces nobles se croient tout permis vis-à-vis des bourgeois. Ils sont toujours les mêmes. » continua-t-il, blessé dans l'orgueil de sa roture. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il lui soit arrivé quelque chose. Une indisposition, un duel, que sais-je. Mais au moins, on écrit, on s'excuse, on envoie quelqu'un. On ne fait pas une jeune fiancée l'affront de la laisser bâiller aux corneilles devant 10 personnes qui lui mangent le blanc des yeux. Ne pas venir signer un contrat, si bien fait, un chef-d'œuvre, que mon confrère M. Desclions a bien voulu me laisser rédiger et qui serait admiré de tous les notaires de Paris. Mais c'est affreux, mais c'est indigne. M. Després en était là de son monologue, lorsqu'un coup violent retentit à la porte de la rue. « Ah, enfin le voilà !» s'écria le notaire avec une explosion de contentement. « Mon Dieu, lequel des deux va paraître ?» dit Calixte, presque étouffé par la violence de son émotion. Et la jeune fille, incapable de se soutenir, s'appuya au dossier du fauteuil. Le temps qui s'écoula entre ce coup de marteau et l'entrée dans l'appartement de la personne qui l'avait frappé, entrée indiquée par le tintement de la sonnette, fit comprendre à Calix ses hallucinations où une seconde semble durer 1000 ans. La porte s'ouvrit. Un brouillard s'étendit sur la vue de Calixte. Un domestique s'approcha de Monsieur Després et lui dit quelques mots à l'oreille. Monsieur Després parut fort intrigué, se gratta le derrière de l'oreille, ce qui marquait chez lui la plus haute perplexité, et suivit le domestique après avoir prié l'assistant de l'excuser. Qui pourrait peindre l'étonnement de Monsieur Després lorsque, dans la pièce voisine, il se trouva face à face avec Henri d'Albergue. Il écarquilla les doigts, ouvrit la bouche sans émettre de son, et ses prunelles s'entourèrent de blanc, signe de stupeur, s'il faut en croire les cahiers d'expression dessinés par Charles Lebrun. « Comment, vous ici, mauvais garnement? Vous venez faire quelque scène inconvenante ?» dit enfin l'ex-notaire, un peu revenu à lui, troubler une cérémonie respectable. « Monsieur Després, répondit Balderg avec la plus extrême politesse, je crois que vous vous méprenez sur mes intentions. Quel que soit mon chagrin d'être banni de la présence de mademoiselle votre fille sans l'avoir mérité, je la respecte trop pour me livrer à aucune démonstration qui pourrait la compromettre. La douleur de n'être pas votre gendre ne me fera jamais oublier les devoirs d'un homme de bonne compagnie que je n'ai pas cessé d'être, malgré les préventions que vous avez conçues contre moi. Non, ce n'est pas pour cela que je viens. Daignez prendre connaissance de cette lettre. » D'Albergue tendit à M. Després une enveloppe toute chamarrée de timbres, tigrée de visas, au milieu de laquelle s'arrondissait un de ces prodigieux cachets triomphe des chancelleries. Bon, je lirai cela plus tard, dit M. Després, en faisant mine de plonger la lettre dans une de ses poches, et je vous rendrai réponse plus tard. Henri fit un signe de dénégation, marquant qu'il voulait sa réponse tout de suite. Comment vous sentez, mon cher, continua M. Després en faisant quelques pas du côté de la porte, comme pour indiquer la sortie au jeune homme. Qu'après ce qui s'est passé, une rencontre ici entre vous et Rudolf serait éminemment désagréable. Oh, n'ayez aucune crainte de ce côté, monsieur Després, répondit d'Albergue d'une voix ferme. Rudolf ne viendra pas, ou je me trompe fort. Comment, que dites-vous? S'écria l'ex-notaire. Rudolf ne pas venir, mais c'est de la folie. « Nullement, prenez connaissance de la lettre que je vous apporte, et cela vous paraîtra fort raisonnable. » Monsieur Després rompit le cachet d'une main tremblante et tira de l'enveloppe quelques papiers dont la lecture rapide le fit changer plusieurs fois de couleur et pousser des exclamations entrecoupées. « Quelle horreur! Mais quelle infamie! Qui aurait jamais cru cela ? Fiez-vous donc aux gens. Oh, c'est qu'il n'y a pas moyen d'en douter. Oh, fis donc, et moi qui ai donné la main à cet homme-là, dit le brave notaire en faisant le geste de s'essuyer. Êtes-vous toujours décidé à donner mademoiselle votre fille au baron Rudolf? Dit Henri, qui avait regagné du terrain et se trouvait au milieu de la pièce. Moi, jamais de la vie. « Donnez ma fille à Sir Rudolf, un espion. J'aimerais bien un voleur. »« Et même un honnête garçon, » dit Henri en poussant M. Després vers la porte du salon où se donnaient les témoins. M. Després parut réfléchir. « Qui adore Calixte, qui, au lieu d'avoir perdu les 25 000 livres de rente qu'il possédait, en a maintenant 30 bien assurés ?» La méditation de M. Després devint plus intense, et il mit la main sur le bouton de cuivre de la porte. Sans compter un joli hôtel, entre cour et jardin, délicieusement meublé, qui conviendrait admirablement à un jeune ménage. M. Després donna un tour au bec de canne et entr'ouvrit le battant. Vous attendiez un gendre, il ne vient pas. Voulez-vous que je le remplace, à tout hasard? Bien qu'il soit le bonheur, je me suis mis en habit noir. J'ai le costume de la circonstance. C'est vrai, il a une cravate blanche, dit Monsieur Després, tout à fait convaincu. Et il rejeta le battant de la porte avec fracas. Henri s'arrêta, incertain, sur le seuil. Monsieur, dit Monsieur Després d'une voix éclatante, je vous présente Monsieur Henri d'Alberg, mon gendre, au contrat duquel vous allez signer. Je vous l'avais bien dit, mon père, murmura tout bas Calixte, que je n'aurais jamais d'autre époux que d'Alberg. L'explication que donna Monsieur Després de cette substitution inattendue d'un gendre à un autre, quoique passablement embrouillé, fut acceptée sans conteste par tout le monde, car Henri d'Alberg était généralement aimé et la société de Monsieur Després n'avait pas vu avec plaisir Rudolf fréquenter cette maison. Nous ne ferons pas à nos lecteurs l'injure de leur expliquer que Florence avait appris, pendant ses relations avec Monsieur de Turckheim, le métier infâme que faisait Rudolf. Espion de la cour étrangère de M. de Turckheim était le représentant. Les preuves écrites de cette turpitude étaient contenues dans la lettre remise à M. Després par d'Alberg. Rudolf, menacé de voir publier ces terribles documents, avait quitté la France. Dans le courant de cette heureuse journée, Calixte reçut une lettre dont la suscription portait « à Madame d'Alberg ». Pendant qu'elle la lisait, son sein se gonflait et des larmes d'attendrissement coulaient de ses yeux. « Bonne Florence, » dit-elle tout bas en serrant précieusement le papier dans son corsage. Les cérémonies nuptiales sont assez généralement connues pour qu'il ne soit pas urgent de faire une description détaillée des noces de Calixte et de Dalbert. Ils sont heureux et mariés. Nous n'avons plus le droit de nous occuper d'eux. Disons seulement qu'au bout de quelques mois, d'Alberg, en ouvrant par mégarde un tiroir dans la chambre de Calixte pour chercher quelque chose qu'il avait serré ailleurs, trouva une lettre dont l'écriture ressemblait à celle de Florence. Il n'y lut que cette phrase « Adieu, Calixte, je pars pour l'Amérique, j'aime ton mari ». Plains-moi. Oh, les Orientaux sont décidément des peuples plus sages que nous, dit d'Alberg en étouffant un soupir. Fin.